d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Nous reprenons l'antenne pour une petite année, parce qu'il y a encore du chômage en France, comme d'ailleurs dans tous les pays du monde, malheureusement. Alors cette émission ce soir est avec l'équipe d'ACAC, c'est Agir Ensemble contre le chômage. Je suis avec Ludo, bonjour Ludo.
Bonsoir.
Bonsoir. Et nous avons une invitée surprise, c'est Odile, bonjour Odile.
Bonsoir.
Qui bien sûr appartient à Stop Précarité, l'association ou le collectif plutôt Stop Précarité. Nous parlons donc ce soir avec Odile des femmes de chambre, de toutes les petites mains qui travaillent dans les hôtels, qui ont gagné effectivement avec leur patronat quelques avantages, parce qu'elles ont fait grève pendant un certain nombre de semaines et de mois pour gagner un certain nombre de choses. Ça a été le cas, elles ont gagné, donc on en parlera avec Odile. Et avant tout, nous parlerons également des chiffres du chômage et surtout du remaniement du rythme scolaire de l'enfant, puisque c'est la rentrée scolaire en septembre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et voilà, nous reprenons cette antenne pour une heure d'émission. Nous finirons bien sûr à 21h30, comme tous les vendredis. Alors Ludo, dis-moi un petit peu, les chiffres du chômage, apparemment on est à 10,5% des actifs des chômeurs par rapport aux actifs. C'est-à-dire 2 990 000 chômeurs ces deux derniers mois. Donc apparemment c'est stagnant, ou comment pourrait-on dire?
Oui, alors l'expression du gouvernement, c'est qu'il y a un ralentissement de la hausse. Ouais. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, au premier trimestre 2013, l'augmentation du chômage avait été de 0,3 points et il semblerait que aujourd'hui, que ce trimestre-là, au deuxième trimestre, donc d'avril à juin, l'augmentation est ralentie, l'augmentation du nombre de chômeurs est ralentie. Et donc voilà, donc ça c'est la publication en fait des chiffres de l'INSEE de septembre qui confirme plus ou moins les chiffres de la NPE, de la DARES. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? Écoutez, en fait, je sais pas si vous avez lu la presse, mais d'un coup les chiffres du chômage, tout le monde s'y intéresse et tout le monde en parle parce que c'est la grande question de savoir si oui ou non François Hollande va pouvoir tenir ses promesses d'inverser la courbe du chômage d'ici 2014. Donc inverser la courbe du chômage, ça veut juste dire d'abord d'arrêter les destructions d'emplois, d'arrêter que le chômage augmente et puis qu'éventuellement on puisse avoir une petite baisse. Voilà, donc globalement les économistes ne sont pas très optimistes puisqu'il semblerait que on aille vers une... selon certaines notes publiées par le gouvernement et qui sont pas trop utilisées à des fins de communication, il semblerait que la destruction d'emplois se poursuive en 2014. Et on peut penser fort légitimement que M. François Hollande parie en fait sur la reprise des économies, de l'économie américaine et de des économies européennes pour tenir son fameux pari dans un contexte où il réduit, effectivement, il y a une augmentation des impôts, une augmentation à la fois des impôts sur les entreprises, de la TVA, et de l'impôt sur le revenu, ce qui a quand même pour effet de, en réduisant la consommation, de ralentir la croissance de toute façon. Donc voilà, donc c'était un grand suspense. Donc voilà, il reste tout de même qu'effectivement le taux de chômage a dépassé depuis belle lurette les 3 millions, y compris au sens du BUT, ce qui est en soi un exploit, donc, si vous avez lu Le Monde, et selon l'article du Monde aujourd'hui, il semblerait que les chiffres publiés par l'INSEE soient légèrement minorés par rapport à son ancien calcul. Oui. Il semblerait que ce soit tout à fait accidentel, puisqu'il s'agit du nouveau questionnaire de l'enquête emploi qui est rénové, qui minorerait de 0,3 points, semble-t-il, les chiffres du chômage, et que selon l'ancienne version, on serait plus proche de 10,8 ou 10,9 donc chômeurs
par rapport aux actifs,
chômeurs au sens total, donc c'est-à-dire n'ayant vraiment pas travaillé du tout dans la semaine qui précède l'enquête. Donc France entière et 10,5 France métropolitaine. Alors que selon la nouvelle version, on est plus à 10,2 et 10,5 en France entière et 10,2 France métropolitaine. Voilà. Et donc il y a quand même un point qui est important à souligner, c'est que le gouvernement a fait valoir que la hausse du chômage des jeunes était interrompue et que effectivement il avait baissé en fait d'un point. Donc il faut quand même faire deux remarques là-dessus, c'est que il y a quand même un phénomène qui se passe depuis à peu près 2011, c'est que les jeunes ont tendance à retarder leur entrée dans la vie active et donc ne sont pas comptés comme des chômeurs. Donc c'est-à-dire qu'ils prolongent leurs études en fait hein, d'une manière ou d'une autre. Et puis qu'il y a le dispositif des emplois aidés aussi qui est venu en quelque sorte à la rescousse. Ça a toujours été un peu ce système-là, hein, c'est-à-dire qu'on fait baisser les chiffres du chômage en temps de crise via le recours aux emplois aidés. Donc la droite avait beaucoup fait baisser les emplois aidés. En période de crise, François Hollande les remonte. Il pense arriver à 500 000 emplois aidés. Il y en a à peu près 287 000 emplois aidés de base hein, qu'on connaît ici, les CEC. Et donc les fameux contrats d'avenir.
Dont 50 000 ont été signés, il n'y a pas de
voilà, temps. Dont 50 000 ont été signés dans un objectif de 100 000. Donc l'un dans l'autre. On peut quand même considérer que la baisse, y compris la baisse du chômage des jeunes, est quand même, pour le moment, j'ose pas dire artificielle, mais que rien n'est...
Rien n'est acquis, quoi.
Absolument rien n'est acquis, voilà. Et je voulais finir aussi par le fait que c'est vrai qu'on pourrait regarder ce qui se passe aux États-Unis, puisque...
Mais juste avant de parler des États-Unis, j'aimerais un peu que tu me dises si tu as étudié un peu la question... ce qui se passe au niveau des emplois jeunes, parce qu'apparemment il y a eu une baisse du chômage chez les jeunes jusqu'à 24 ans. Oui. Donc de 1 point, il me semble, entre décembre 2012 et juin 2013. Ça correspond à quoi, ça, ce pourcentage?
C'est ce que j'ai expliqué, c'est 24%. Donc quand même 25% des jeunes, ça fait un quart des jeunes qui sont... des jeunes de moins de 26 ans, des 15-24 ans, pardon, qui sont au chômage. Donc c'est énorme.
C'est énorme.
Et donc... 15-24 ans, c'est vraiment le moment où on rentre en fait dans la vie active, grosso modo. Hein. Et donc ce qu'on disait, c'est qu'il y a un retard. Simplement, les jeunes ont tendance à différer leur entrée dans la vie active pour prolonger leurs études. Et puis il y a le deuxième effet, c'est les emplois jeunes qui, en principe, sont censés les ex-emplois jeunes, les emplois aidés, qui en principe sont à la fois censés concerner pour les contrats d'avenir les personnes qui ne sont pas qualifiées et les anciens dispositifs qui concernent un peu tout le monde. Or effectivement les emplois aidés avaient beaucoup baissé, mais donc pour atteindre 287 000 quelque chose comme ça, 300 000 personnes à tout casser, et depuis la crise et depuis l'arrivée de François Hollande, il est question de les remonter quoi, hein, et d'arriver à un chiffre, donc 50 000 emplois, comme tu l'as dit, ça concerne les jeunes en premier. Donc c'est une baisse qui est relativement artificielle.
Mais on pourrait dire également que l'emploi dans le privé est toujours aussi catastrophique, puisque les emplois jeunes, comme effectivement les emplois d'avenir, les contrats d'avenir, sont principalement du public, des emplois publics. Mmh. Hein. Donc là, au niveau des emplois privés, effectivement, ça reste un petit peu en dessous de ce qu'on devrait...
On est presque tout le plus bas d'emplois.
Voilà. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure des États-Unis. Donc, est-ce que les Américains sont devenus des oisifs par rapport à aujourd'hui, par
des
rapport à la France?
Ou
des feignants.
Des feignants. Yes. Écoute, je m'appuie sur un article du Monde, mais effectivement, on savait, c'est qu'on parle beaucoup de la reprise américaine. Alors, il faut savoir que dans les années 2000, notamment, la reprise américaine n'était pas glorieuse en termes de création d'emplois, tout de même. Et que c'est plus une force de l'économie américaine de créer une masse d'emplois. Donc les gens effectivement qui parient sur la reprise américaine, donc il faut savoir que aujourd'hui le taux de chômage aux États-Unis s'élève à 7,5%. C'est-à-dire ils sont revenus à leur niveau de 2008. Donc c'est pas beaucoup, on peut le dire. Sauf qu'en fait, il semblerait que les statistiques soient très sous-évaluées, puisqu'en fait ne sont pas prises en compte les personnes qui ont abandonné leur recherche d'emploi aux États-Unis. Or, il en existe apparemment
une masse importante.
Et on peut le savoir parce que on a d'autres chiffres, donc comme le taux d'activité. Donc le taux d'activité, c'est les gens en fait qui sont en emploi. Donc aujourd'hui, 58,7% des Américains en âge de travailler ont un emploi, ce qui est bien au-dessus des niveaux d'avant-crise, qui étaient autour de 65%. Donc le chômage baisse, mais le taux d'activité, pareil, un peu comme en France, est un des plus bas qui soit. Donc l'article hein, qui est d'Audrey Fournier avance deux explications. C'est que, enfin, une explication essentielle, c'est la baisse de la population active, c'est-à-dire une partie des baby-boomers qui seraient partis en retraite, et aussi une désincitation au travail, c'est-à-dire un découragement en fait dans la recherche du travail, qui est lié spécifiquement au marché du travail américain, c'est-à-dire qu'on aurait ou des postes très 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 qualifiés, ou alors des postes donc de service, de main d'œuvre en fait, qui seraient suffisamment mal payés pour ne pas être attractifs pour les classes moyennes, notamment pour les jeunes diplômés, donc qui pareil ont tendance à différer aussi leur entrée dans la vie active.
Bah écoute, je te remercie. On va peut-être écouter une petite chanson avant de reprendre la parole sur le problème de la rentrée scolaire, parce qu'il y a quand même quelques soucis à noter. Donc, si Claude, tu peux nous envoyer la chanson. Merci bien.
Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, va du pas. De son histoire au plus profond des mémoires, et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins, l'île de Saint.
Et oui, c'est toujours Mode d'emploi sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, donc c'était Luc Appart, un très très grand chanteur que peut-être vous ne connaissez pas, mais qu'il faut absolument acheter quand vous aurez l'occasion. Et ça s'appelait Marjolaine de Luc Appart, donc c'est un Breton. Vive la Bretagne. Alors nous reprenons cette émission. J'aurais aimé dire quelques mots avant de passer la parole à Odile sur les gouvernantes de l'hôtellerie, dire quelques mots sur la rentrée des classes, puisque comme vous le savez, vous l'avez certainement remarqué, vous parents ou pas parents d'ailleurs, que c'était la rentrée scolaire aujourd'hui, enfin en septembre, et donc qu'il y avait à Paris, que le maire de Paris avait donc insisté pour qu'en 2013 on mette en place le remaniement du rythme scolaire de l'enfant. En quoi ça consiste ? Ça consiste en fait que les enfants, le mardi et le vendredi, au lieu de finir à 16h30, ils finissent à 15h. Et qu'entre 15h et 16h30, ils sont repris en charge par les animateurs de la ville de Paris pour faire des ateliers culturels, sportifs, artistiques, etc. Alors le souci, c'est que dans l'animation en général, un animateur encadre 12 enfants quand ce sont des primaires. Et que là, pour le coup, c'est 1 pour 18. Donc je ne vous raconte pas le problème de la sécurité dans les cours d'école. Et surtout dans les ateliers, puisque là, il y a beaucoup de monde pour un seul animateur. Il y a un problème d'effectif donc, pour encadrer les enfants. Il y a également un problème d'espace, parce que en fait, pour faire ces ateliers, seul le préau et la cour est disponible pour les enfants. Si les instituteurs sont d'accord, ils mettent à la disposition des animateurs leur classe pour qu'ils puissent faire leurs ateliers. Alors, il y a un autre problème qui s'est posé également, c'est en dehors de l'encadrement, c'est que Paris a donc décidé en 2013 de passer au remaniement du rythme scolaire, ce que n'a pas fait les autres régions et les autres départements qui sont autour de Paris, comme le 93 par exemple, qui ne commenceront qu'en 2014, ce qui leur laissera du temps pour faire un petit projet, préparer les choses un peu mieux, et puis un petit peu contourner tous les problèmes qui pourraient se rencontrer en faisant ça en 2013. Mais Paris est nettement supérieur aux autres, ils ont commencé tout de suite, dans la précipitation, avec des animateurs pas toujours formés, certains le sont, d'autres pas, avec beaucoup trop d'enfants par animateur, comme je viens de l'expliquer. Et il y a un autre problème dans certaines écoles de Paris, parce que les enfants donc passent, font une sorte de parcours devant les ateliers pour savoir lequel ils vont choisir. Et puis si je prends un atelier, par exemple, connaissance du monde, un enfant de 9 ans ou 10 ans qui veut faire connaissance du monde, dans certaines écoles, il sera obligé de coupler cet atelier le mardi de connaissance du monde avec un atelier le vendredi qui sera sportif. Or, si cet enfant n'aime pas le sport, bah, il sera obligé quand même de faire du sport. Donc déjà, merci à la démocratie. Et en termes de choix, c'est un peu restrictif, on va dire. Donc, si vous vous souvenez, nous avions fait une émission sur l'atmosphère scolaire de l'enfant en juin, je crois, de cette année. Et j'avais interviewé un recteur d'académie, je suis moi pour le remaniement du rythme scolaire, puisque ça permet aux enfants, on sait très bien que les enfants ne peuvent pas apprendre de façon intense toute la journée. Effectivement, les enfants, ils sont concentrés que trois quarts d'heure, après il faut faire une pause. ils apprennent mieux le matin que l'après-midi, donc il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Et là, pour le coup, c'est bien de faire des ateliers effectivement plutôt l'après-midi que le matin, parce que le matin, les apprentissages rentrent plus facilement. Or, le souci, c'est quand même que ces ateliers qui sont mis en place sont mis en place un peu n'importe comment. Et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on voit surtout des enfants qui courent dans la cour de l'école et qui ne sont pas du tout pris en charge dans le cadre des ateliers, et que ça ne fonctionne absolument pas, a priori. J'ai parlé avec quelques... Moi, je suis parent d'élèves, donc j'ai parlé avec quelques parents d'élèves d'école de mon fils, mais également d'écoles qui sont d'à côté. Effectivement, c'est la pagaille. Donc voilà, donc je demanderais... ce qui serait bien, c'est quand même que la mairie de Paris, comme l'éducation nationale, révise un petit peu leur dossier, et puis fasse un remaniement de ce qu'ils sont en train de mettre en place, parce que pour l'instant ça fonctionne pas, absolument pas, pour ce qui me concerne, enfin c'est ce que je pense, hein. Mais c'est un avis, c'est pas,
c'était peut-être un peu précipité.
C'est un peu précipité, j'aurais préféré qu'ils fassent ça en 2014 avec un vrai projet, et puis voilà. Donc ça, c'était à dire. Donc je vais finir sur cette ça. Alors j'aimerais quand même maintenant passer un sujet qui va nous faire sourire, parce que en fait il y a eu une petite victoire pour les gouvernantes et les femmes de chambre des hôtels parisiens. Je crois qu'il y a plusieurs, il y a Accor, enfin il y a un certain nombre d'hôtels, Louvre Hôtel, Suresnes, ouais, etc. Et donc, tu veux-tu nous dire un petit peu comment s'est formée toutes ces grèves et comment elles en sont arrivées effectivement à un accord avec leur patron pour obtenir pas mal de choses finalement.
Oui, alors d'abord il faut rappeler que Louvre Hôtel, c'est le deuxième groupe français de l'hôtellerie derrière Accor, et que seulement en France il y a entre 750 et 800 hôtels, donc c'est un holding. Donc il y a eu une très belle victoire effectivement par ces temps difficiles, puisque donc les femmes de chambre et les gouvernantes de la société Deka France avaient fait grève pendant 4 semaines du 20 mars au 17 avril 2012. En même temps d'ailleurs qu'une partie du personnel interne aux hôtels Campanile et Premières Classes à de Pont-sur-Aisne. Donc, ce sont des hôtels qui comptent chacun autour de 140-145 chambres. C'est des hôtels de classe économique. Donc, il y en a un qui est, je crois, une étoile, et l'autre est passé récemment de 2 à 3 étoiles. Les femmes avaient obtenu, avec la grève de 2012, beaucoup de choses déjà intéressantes. Et en plus, à présent, elles ont obtenu l'intégration pleine et entière dans le personnel du groupe Louvre Hôtel. Donc c'est vraiment une première, disons, et c'est à noter. Donc c'est à compter du 1er août 2013. Donc tous les acquis, les avantages sociaux qu'a le personnel des hôtels vont s'appliquer maintenant à ces femmes. Donc un accord a été signé au début du mois d'août entre la direction de Louvre Hôtel et le syndicat CGT Hôtel de Prestige et Économique, qui est majoritaire dans ces hôtels. Et l'accord porte en fait sur 22 salariés en tout, dont 19 femmes de chambre. Alors il faut quand même noter un peu que après la victoire de la grève il y a un an, le personnel avait été augmenté, hein, compte tenu que pas mal de revendications avaient été satisfaites, et donc les cadences notamment avaient été nettement diminuées, hein, puisque le paiement des femmes de chambre à la chambre
à la tâche
a été supprimé pour mettre en place un paiement en fonction du nombre d'heures réelles qu'elles font tous les jours. Donc il y a eu une pointeuse qui a été installée.
C'est fou, hein, quand même, des salariés qui sont obligés de revendiquer, de manifester pour avoir une pointeuse.
Oui, mais en fait, là, dans ce cas-là, on a intérêt à ce qu'il y ait une pointeuse. Bon, le problème, c'est qu'elle ne marche pas forcément toujours.
Ah bon ?
Mais on a quand même intérêt à ce qu'elle soit là et à ce que l'employeur puisse effectuer un relevé mensuel pour chaque salarié des heures qu'elle a effectuées. Parce que sinon, si s'il n'y a rien, on peut arriver à, franchement, à ce que ce soit n'importe quoi. Et là, c'était vraiment le cas. Donc, voilà, on a eu cette grève très, très dure il y a un an, puisqu'il y a eu des piquets de grève tous les jours, hein, pendant 28 jours. Il y a eu des tentatives de briser la grève, puisque la société avait même essayé de faire venir des personnes leur faire nettoyer les champs, mais en fait il s'est avéré que certaines personnes n'avaient même pas de contrat de travail, enfin je sais plus exactement quel était le problème, mais de toute façon c'est une grève qui a été difficile. Bon, effectivement le premier problème c'était le rythme totalement infernal de nettoyage des chambres, puisqu'elles étaient censées nettoyer entre 4 et 4 chambres et demie par heure. Les cadences étaient infernales, le paiement à la chambre faisait que toutes leurs heures de travail n'étaient pas comptabilisées, parce que il y avait souvent des aléas, elles ne pouvaient pas forcément entrer dans les chambres, compte tenu qu'il y a certains clients qui restent dans leur chambre jusqu'à 14h l'après-midi. Donc elles étaient obligées d'attendre que les clients libèrent les chambres pour...
Et elle n'était pas payée.
Tous ces temps d'attente dans les couloirs n'étaient pas payés, effectivement. Donc, et parfois, lorsqu'elle voulait gagner un salaire décent, hein, autour de 1000 euros, il fallait qu'elle fasse un nombre de chambres incalculable, et il fallait qu'elle perde beaucoup de temps pour faire ces chambres-là, donc avec beaucoup d'heures de travail qui n'étaient pas payées en réalité.
Est-ce que dans certains cas, j'ai lu ça hein, quelque part, il arrivait que finalement sur les contrats de travail, il n'y ait pas d'heures, d'heures établies en fait, hein, c'est-à-dire que ces contrats à la tâche.
C'est le problème des contrats de travail dans le secteur de l'hôtellerie, qui mentionne effectivement un volume horaire global, mais qui est souvent mensuel. Alors là, concrètement...
C'est
assez théorique, c'est même pas respecté. Donc il n'y a aucune précision sur les horaires à faire dans la semaine, c'est bien évident. Donc on est sur... au départ, elles avaient des contrats de 60 à 105 heures mensuelles. Bon, il y en avait même une qui avait un contrat de 26 heures par mois. Et en réalité, elles faisaient beaucoup plus. Et donc elles ont obtenu des contrats... de 120 à 130 heures, donc grâce à la grève.
Ce qui n'est pas encore un temps plein, précisons.
Non, mais elles veulent pas toutes forcément être à temps plein, parce que compte tenu que beaucoup ont des enfants, et que ça peut les arranger d'avoir un contrat de 6 heures, à condition que, quand on commence le matin à 9 heures... Ben, on termine à 15 heures. Parce que là, ça permet d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Dans la pratique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que très souvent, elles sont obligées de rester plus tard, jusqu'à 17 heures, 18 heures parfois. Donc, voilà. Ça a été quand même déjà une victoire de cette grève. Et il faut souligner aussi que cela a été possible à cause d'un long et patient travail qui a été mené par les organisations. Alors, il y avait deux organisations syndicales. La CGT, donc HPE, Hôtel de Prestige et Économique, et la CNT, qui était majoritaire parmi les salariés de la société de sous-traitance. Et ce travail en vue de construire une unité entre les personnels à la fois des hôtels et de la société de nettoyage. Et nous avons en plus une nouvelle législation avec la loi du 20 août 2008 qui comporte un volet sur la représentativité des organisations syndicales dans les entreprises et qui a permis aux salariés du sous-traitant de choisir de voter avec le personnel du donneur d'ordre aux élections professionnelles ou bien chez le prestataire de service. Mais bon, en fait, ils ont préféré voter avec le personnel du donneur d'ordre. Et cela a conduit à une victoire de la CGT. C'était quelques mois avant le début du conflit. Et dès cet instant-là, la préparation de la grève a commencé parce que il était absolument pas normal que des salariés qui font partie d'une même communauté de travail quasiment continuent à avoir des statuts sociaux extrêmement différents. Donc,
j'ai une question. Avant la pointeuse, comment on pouvait vérifier qu'effectivement ces heures étaient faites? Comment les patrons disaient, est-ce que les patrons pouvaient contester que les heures que La gouvernante, elle disait, j'ai fait 18 heures cette semaine. Et puis,
si elles étaient payées à la tâche, il n'y a pas une, c'est pas une question d'heure, finalement, c'est ça?
Ils ne tenaient absolument pas compte. Pour les payer, ils ne tenaient compte que du nombre de chambres qu'elles avaient nettoyées. Ouais. Dans le mois.
En considérant que c'est 4 par heure, en gros.
Non. Et en considérant que c'est 4 chambres par heure. Effectivement. D'accord. Donc, il divise le nombre de chambres par la cadence et il obtient un nombre d'heures de travail théorique et qu'il paye. Mais il ne paye absolument pas les heures réellement faites. Donc, ça, c'est tout le problème du travail à la tâche.
Alors, sachant peut-être qu'elles avaient des contrats, bon, même en étant sous-traitance, hein, c'est-à-dire que. Peut-être que tu peux rappeler ce qu'est la sous-traitance pour les hôtels. Il s'agit, en résumé, la sous-traitance, si j'ai bien compris, il s'agit d'un hôtel qui confie son marché, donc en l'occurrence le marché des femmes de chambre. C'est ça, hein.
On appelle ça le service hébergement des hôtels, et ça comprend le personnel, qui effectivement fait le ménage dans les chambres. Il y a les femmes de chambre, il y a les gouvernantes, et parfois il y a des valets de chambre aussi. Ouais.
Donc en résumé, on se retrouve dans une entité où, dans certains hôtels, il y a l'hôtel d'un côté, et puis il y a le personnel qui fait partie d'une autre société. C'est ça, hein, ou une partie du personnel qui fait partie d'une autre société.
D'un prestataire de service. Ceci étant, il faut quand même bien préciser que, et ça les directions des groupes hôteliers le reconnaissent, le cœur du métier dans l'hôtellerie, c'est le ménage des chambres.
Oui, mais justement, un hôtel qui sous-embauche
et
son
ça,
personnel.
C'est vraiment là-dessus, je crois que c'est là-dessus que la CGT a mené un peu ce combat. C'était la menace finalement d'une condamnation devant les prud'hommes et d'une condamnation qui aurait pu coûter très cher parce que en fait dans le secteur hôtelier la sous-traitance ne se justifie pas. Elle se justifie pas parce que on a aucune spécificité ni aucune raison au niveau des qualifications. De procéder à ces externalisations. La seule raison, c'est de pouvoir avoir, avec une société de sous-traitance, d'avoir un personnel extrêmement flexible, taillable et corvéable à merci, et donc à qui on peut faire des cadences très très élevées.
Voilà, donc c'est plus une baisse des coûts.
Partir de là, on a possibilité d'action en justice pour plusieurs raisons. D'une part, les contrats de travail qui sont parfois totalement illicites. Ensuite, le délit de marchandage. Et enfin, le travail dissimulé. Parce qu'à partir du moment où un salarié reste dans les murs d'un hôtel ou d'un employeur, quel qu'il soit, pendant 8 heures par jour et qu'il a un contrat où on lui paye que pour 4 heures, il est bien évident que le donneur d'ordre est responsable. Totalement.
Donc en fait, c'est les suites possibles, les suites judiciaires possibles du conflit qui ont conduit à la victoire.
Effectivement. Il y a eu. D'ailleurs, c'était pas le seul cas, puisqu'il y a eu plusieurs autres hôtels en même temps, sur lesquels il y avait des procédures judiciaires en cours. Mmh. Et donc, il y avait notamment le nouveau hôtel du RER des Halles.
Ce qui pourrait donner une possibilité à d'autres accords ou d'autres réintégrations
à
l'avenir.
Ça fait boule de neige,
tout à fait. Oui, là, il y a une grosse, grosse menace qui pèse sur les employeurs lorsqu'ils externalisent. Il faut dire qu'en région parisienne, c'est quasiment. C'est la grande majorité des hôtels qui ont externalisé.
Et ça, est-ce que c'est lié à une modification de la loi, en fait, une modification législative qui permet de porter l'affaire au prud'homme? Parce qu'on peut légitimement se demander comment
C'est aussi tardif. Enfin, moi, la raison essentielle me semble être les difficultés de syndicalisation des salariés.
D'accord. Oui.
Hein, les difficultés. Et puis, ce sont des salariés qui sont souvent très précaires. Il y a un turnover. Il y a une répression contre les délégués syndicaux.
Oui, il y a eu des cas de licenciement.
Voilà, donc c'est ce qui s'était passé après la grève d'Arcade en 2002. Enfin, il y a eu une longue grève dans la société Arcade entre mars 2002 et mars 2003. Et à la suite de quoi le groupe Accor s'était engagé, avait signé une charte dans laquelle il s'engageait à veiller à l'amélioration des conditions de travail des salariés de la sous-traitance. Et En plus, il s'était engagé à internaliser le nettoyage des chambres. Bon, en fait, tout ça n'a jamais été fait, et entre autres raisons, parce que les conditions n'ont pas permis le respect de ces accords. Et notamment, une des conditions, c'était qu'il y ait des personnes, hein, des délégués syndicales, pour faire respecter ces accords-là.
Donc, il y a combien, depuis le début du conflit, il y a eu combien d'hôtels qui sont mis en grève, en fait ? Il y a eu... Sur l'ensemble de la période, il y a eu beaucoup de... c'était très, très suivi par l'ensemble des hôtels.
Non, mais ça, on est sur une longue période. Oui. On est sur la longue période. C'est des conflits qui sont récurrents, qui souvent traînent pendant des années, parce qu'il y a des moments de grève un peu aiguë, et puis il y a des moments où le conflit reste, mais à un état un peu larvé. Quoi.
Si je peux me permettre, vous avez publié le réseau Stop Précarité, vous avez publié 10 ans de conflits dans l'hôtellerie parisienne, donc c'est une brochure qui a été éditée, alors qu'on peut se procurer dans certaines librairies
parisiennes. Oui.
Voilà, et donc en fait pour connaître un peu, il faut aller sur le site de stopprécarité.fr. Et donc pourquoi 10 ans de conflits dans l'hôtellerie parisienne, c'est qu'apparemment vous distinguez des premières grèves qui étaient plutôt des grèves de personnel qui étaient encore internalisées, hein, qui dépendaient encore des hôtels parisiens, donc il y a une tradition de grève quand même dans les hôtels parisiens, et ces nouveaux conflits de personnes en fait qui étaient victimes de la sous-traitance. Donc il a fallu grosso modo 10 ans pour aller.
Ah, mais il y a toujours eu les deux.
D'accord.
Alors d'abord, je voudrais dire quelque chose au sujet du réseau Stop Précarité. Bon, parce que nos auditeurs le connaissent peut-être pas bien. Il a été créé en 2001 par des salariés précaires de diverses enseignes du commerce et de la restauration rapide, et par des militants d'associations. Voilà, qui constatait que l'emploi précaire se généralisait, et ce réseau notamment organise des cours de droit du travail tous les premiers lundis du mois à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, effectivement, il y a eu toujours les deux au niveau des conflits dans les hôtels, parce que effectivement, il y a... Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a une forte majorité des hôtels qui ont, en région parisienne, hein, c'est pas tout à fait pareil en province, qui ont externalisé le ménage des chambres. Mais ceci étant dit, il reste quand même, il y avait une syndicalisation traditionnellement assez forte dans certains hôtels qui sont plutôt des hôtels de luxe. Donc il faut quand même distinguer les hôtels de classe économique et les grands hôtels de prestige, les hôtels de luxe. Bon. La mise en sous-traitance n'a pas été faite en totalité. Hein. Bon, le groupe Accor a énormément externalisé, donc pour ainsi dire, toutes les catégories d'hôtels. Louvre Hôtel n'a pas tout externalisé. Il reste quand même des hôtels qui sont en aide. D'ailleurs, ils ont donné le chiffre. Il y a eu une conférence de presse qui a suivi donc le rassemblement de mercredi 4 septembre, qui se tenait avec la DRH du groupe Louvre Hôtel. Et donc, ils ont expliqué qu'effectivement, il y avait encore 40% du ménage des chambres qui se faisait par du personnel interne. Donc, maintenant, les conflits, il y en a eu autant pour le personnel interne que pour le personnel des sociétés de sous-traitance depuis effectivement, en gros, l'année 2000, mais même déjà avant, bien sûr. Et simplement, il faut bien voir que le personnel interne, bon, d'abord, il y a eu quand même, les premiers conflits, hein, quand on remonte au conflit d'Arcade, il y avait, en 2002, hein, il y a eu pas mal de conflits. Il y avait les hôtels du parc Euro Disney, il y a eu le Sofitel Saint-Jacques, je crois, un peu après. Bon, il y a eu déjà plusieurs conflits. À cette époque-là, on avait encore du ménage des chambres qui se faisait dans le même hôtel. Hein. Dans un même hôtel, on avait des femmes de chambre en interne et des femmes de chambre de prestataires. Donc, à cette époque-là, il était encore possible de comparer, hein, très...
Les statuts des uns et les statuts des autres.
Avec des chiffres aussi très précis, ce que faisaient les uns et les autres.
Et comment ils étaient payés?
Après, après, progressivement, le ménage des chambres en interne a disparu dans beaucoup d'hôtels.
Voilà, donc il y a quand même eu un recours, à ce moment-là, massif à l'externalisation, au moins dans les hôtels de classe économique.
Oui.
Et donc d'appel à la sous-traitance.
Oui. Ce qu'il y a aussi dans les hôtels qui n'ont pas externalisé le ménage des chambres, il y a énormément de CDD et de contrats d'usage. qu'on appelle, je crois, contrats d'extra dans l'hôtellerie. Donc, ils sont des contrats de très courte durée, mais renouvelables indéfiniment.
Donc, globalement, que le personnel soit internalisé ou qu'il soit externalisé, on a plutôt un développement de la précarité dans l'hôtellerie.
Tout à fait. Tout à fait. Et d'autant plus qu'il faut bien voir que les hôtels où le ménage est encore fait de façon interne subissent quand même la pression, hein, la menace du passage à la sous-traitance. Donc on leur dit, hein, ça a été le cas au moment de la grève de la société Astor en 2005, on leur a dit très clairement que si elles acceptaient pas de passer de 13 chambres à 20 chambres nettoyées par jour, elles allaient leurs activités allaient passer à la sous-traitance. Et avec en plus un système de concurrence extrêmement poussé entre les sociétés de nettoyage, puisque tous les 3 ans, on avait un système d'appel d'offres qui faisait qu'on pouvait faire sélectionner un nouveau sous-traitant. Bon, et donc ça mettait les sociétés en concurrence les unes avec les autres. Et il semblerait même que récemment, le délai se soit abaissé à 2 ans et même quelquefois 1 an. Donc tous les ans, les femmes de chambre se retrouvent en situation de se dire qu'elles vont peut-être
perdre leur emploi.
Et là, c'est ce qui s'est passé à Suresnes, parce que donc 1 an après la grève, il s'est trouvé que la société d'Eka France, qui était le prestataire de services, s'est retrouvée en redressement judiciaire et en difficulté économique. Alors, pas seulement à cause de la grève de Pont-de-Suresnes, il y a eu d'autres causes, il y a eu des conflits aussi liés à des retards de salaire.
Et puis il y a eu l'enveloppe budgétaire accordée par le gouvernement.
Voilà, il y a eu une revalorisation de 30% du contrat pour permettre d'assurer les quelques acquis qu'avaient obtenus les salariés au moment de la grève. Mais enfin, elles étaient donc prévenues qu'il allait y avoir un changement de sous-traitant. Donc, changement de sous-traitant voulant dire retour en arrière sur tous les acquis.
Oui, alors c'est quelque chose que vous expliquez assez bien dans votre brochure, c'est que finalement ce recours systématique à la sous-traitance, donc tous les 3 ans minimum, conduit finalement ce personnel à ne pas avoir ni de revalorisation de salaire, ni d'ancienneté prise en compte, ni d'avantages sociaux qu'il pourrait avoir.
Voilà.
Donc ce qui fait qu'on travaille toute une vie en étant payé et en voyant parfois ces conditions de travail se dégrader, notamment sous l'augmentation des cadences.
Effectivement, à chaque arrivée d'un nouveau sous-traitant, les acquis qui avaient été obtenus avec l'ancien sous-traitant sont mis par terre.
Voilà.
Ouais, il faut renégocier un nouvel accord collectif avec le nouveau prestataire de service.
Alors, juste une chose, le salaire, juste pour avoir une ordre d'idée, le salaire moyen d'une femme de chambre qui fait un plein temps, qui est à 35 heures, je ne sais pas si c'est 35 heures dans l'hôtellerie, ou si c'est peut-être 26, je ne sais pas du tout, mais c'est combien d'heures et c'est payé combien à peu près?
Alors, disons que pour une femme de chambre qui travaillerait à temps complet, ce serait autour de 1100 euros, pratiquement. Mais le problème, c'est le SMIC. Mais le problème, c'est que elles n'ont pas un contrat à temps complet et qu'en plus, beaucoup d'heures ne sont pas payées.
Ouais. Donc on a des salaires vraiment ridicules, quoi, à l'arrivée. Hein. Si on cumule à la fois le temps partiel. Bon, plus. Et alors, tu vous expliquais aussi dans cette brochure, alors il y a deux choses. Hein. Il y a d'abord les accords, non pas les accords collectifs, mais la convention collective de l'hôtellerie qui est très défavorable aux salariés et qui a été conçue comme ça en quelque sorte. Et puis il y a aussi des salariés qui se retrouvent en fait en salaire qui est pratiquement en dessous du SMIC finalement, hein, en salaire réel en dessous du SMIC par rapport au nombre d'heures travaillées. Alors est-ce que ça tu peux expliquer cette façon de tourner la loi? De tourner la loi pour aboutir à des salaires réels.
C'est des conventions collectives. Je crois que au niveau de la convention HCR ou de la convention de la propreté, on n'a pas beaucoup de différences. On est dans des salaires qui sont proches du SMIC, très très proches du SMIC dans tous les cas, avec parfois des retards dans les revalorisations indiciaires. Donc, ce qui fait que c'est le SMIC qui s'applique à une grande partie du personnel, parce que beaucoup d'échelons arrivent à être très près du SMIC.
D'accord. Oui, donc c'est pas.
Je vous promets d'arrêter deux minutes, parce qu'on va écouter une petite chanson pour reprendre la parole par la suite. Merci.
Thank you.
Et oui, c'était bien sûr un petit groupe breton qui était très sympathique à entendre. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave.
Mais vive la Bretagne.
Vive la Bretagne quand même. Nous allons prendre cette émission. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris. Voilà, Vacances en Bretagne. Merci Claude qui est à la technique, qui me parle dans
Paris,
le micro.
Paris, Fréquence Bretagne.
Voilà, donc l'auditeur n'est pas au courant de ce que tu es en train de me dire, donc merci pour lui. Donc on reprend cette émission. C'est Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, la meilleure radio de l'Île-de-France. Bien sûr, la meilleure radio militante d'Île-de-France. Je suis un peu de pub.
C'est sympa pour les autres.
Et les autres, les autres sont bien aussi, hein, faut les écouter, hein, voilà, faut les écouter aussi. On reprend cette émission, c'est l'émission de mode d'emploi, donc les chômeurs précaires. Bien sûr, on parle des femmes de chambre et tous les personnels qui travaillent dans les hôtels à Paris, qui viennent donc effectivement de gagner pas mal de choses. On va en parler tout de suite avec Odile.
Voilà. Oui, alors ce qu'elles ont gagné, ouais, depuis leur intégration dans le personnel de Louvre Hôtel, donc au début du mois d'août, c'est un gain mensuel sur les salaires qui est sur leur revenu mensuel de 200 euros. C'est l'évaluation de la CGT. Donc il y a en même temps. Il y avait déjà eu 100 euros avec la grève l'an dernier, mais là il y a 200 euros.
Comme quoi,
donc, à cause de l'application du statut collectif des hôtels. Alors il y a un 13e mois, une revalorisation de à peu près 100 euros des indemnités de nourriture, une prime d'habillage de 228 euros, une prime de participation. 6 jours fériés garantis. Bon,
6 jours fériés. Ah oui, parce que j'avais même des problèmes pour obtenir des jours fériés. D'accord.
Bien sûr. Et donc, en plus de ça, il y a eu une transaction qui a conduit au versement d'une indemnité de 4000 euros par salarié.
Lié au droit.
En raison de tous les préjudices qu'elles ont subis par le passé, du fait des heures de travail non payées, du fait des avantages sociaux non appliqués, etc. Donc, au total, c'est quand même une victoire pour elles.
D'accord.
Et elles disent elles-mêmes, elles sont très contentes parce qu'elles sont vraiment beaucoup, beaucoup moins esquintées par les conditions de travail. Et bon, c'est appréciable.
Il faut dire que pour le moment, c'est une expérience, hein, si j'ai bien compris ce que pense la direction. C'est-à-dire que la direction souhaite s'engager. J'aimerais, avant de parler de ça, parce que tu nous parles un peu de qui travaille finalement dans ces hôtels, parce que c'est quelque chose où j'imagine que c'est une manœuvre féminine.
Les femmes de chambre, ce sont des femmes, donc très clairement, et ce sont pour la plupart des femmes africaines. Bon, il y a aussi quelques femmes asiatiques, parfois quelques maghrébines aussi, mais beaucoup sont peu scolarisées. Donc ça nous amène à ce qui a été envisagé par la direction de l'hôtel, justement. Il va falloir mener des plans de formation et d'alphabétisation même pour certaines femmes. Et donc il y a tout un calcul. Alors la direction de Louvre Hôtel dit bien que pour eux, le modèle économique basé sur la sous-traitance du ménage des chambres n'est pas remis en cause. Il reste sur cette position-là.
C'est dur, là.
Et donc, ils disent, on va faire une expérience pendant un an sur cet hôtel. Après, on fera notre bilan et on décidera d'étendre ou pas. Ouais. Et donc, c'est vraiment quelque chose, pour le moment, de très local et qu'ils ne veulent pas trop vite.
Se généraliser.
Maintenant, ils sont quand même ouverts. Ils sont quand même ouverts à un certain raisonnement puisqu'ils ont fini par reconnaître que le modèle n'était pas forcément efficace. Ils ont réfléchi, ils ont dit oui, effectivement, déjà on a les marges bénéficiaires du prestataire de services qui disparaissent, bon c'est un gain pour nous, etc. En plus, ces personnes-là, on va pouvoir les former, donc si elles font plus d'heures, on va aussi peut-être pouvoir les utiliser à faire d'autres tâches. Alors ils parlaient du service des petits déjeuners, etc. Il va y avoir une polyvalence. Donc ils vont développer ça. Bon, donc il y aurait un autre modèle social en même temps. Alors ils parlent un petit peu de voir s'il y aurait des possibilités de promotion, etc. Enfin bon, Donc alors, c'est tout un autre modèle social en même temps.
Alors hors micro, on disait finalement ce système de sous-traitance. Est-ce qu'il a une justification économique, c'est-à-dire est-ce que réellement les hôtels parisiens, donc de classe économique, sont dans une telle situation financière qu'ils auraient besoin d'avoir recours à la sous-traitance pour faire baisser les coûts? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, où est-ce que effectivement il n'y a pas assez d'heures de travail à proposer aux femmes de chambre qui faille en fait avoir recours à la sous-traitance pour éventuellement pouvoir les déplacer d'un hôtel à un autre comme
c'est assez compliqué en fait, c'est assez compliqué. Oui, parce qu'ils disent notamment que pour eux un des avantages de la sous-traitance est que le prestataire de service, s'il n'y a pas à un moment donné suffisamment de chambres à nettoyer dans un hôtel, peut déplacer la personne et la faire travailler dans d'autres hôtels.
Bon,
mais
c'est
ça, c'est tout à fait théorique. C'est-à-dire que, en réalité, quand on voit la gestion des salariés dans les sociétés de sous-traitance, on s'aperçoit qu'ils font un véritable saupoudrage en donnant, en mettant les femmes en concurrence les unes avec les autres et en leur donnant des très petits contrats. Donc, c'est pour ça que ça tient pas.
Donc,
et en plus, les femmes, c'était une de leurs revendications, c'est de ne plus avoir la clause de mobilité.
D'accord, de pouvoir travailler, de
oui,
pas
de
partir n'importe
rester,
où. D'accord.
Ouais.
Donc cette justification-là n'est pas, finalement, n'a pas été réelle. Par contre, celle de faire baisser les coûts salariaux.
C'est clair qu'ils font. Alors là, moi, le bénéfice de la sous-traitance et de la surexploitation de ces femmes va principalement aux donneurs d'ordre. Puisque là, il y a même eu des évaluations, il y a une plus-value qui est faite sur une journée de travail d'une salariée de la sous-traitance. Le groupe Louvre-Hôtel fait 62 euros de bénéfice. Donc, et ça fait...
Donc le calcul, on précise, le donneur d'ordre, c'est celui qui donne les ordres au sous-traitant et qui lui donne l'enveloppe budgétaire qui va lui permettre de rémunérer. C'est ça. Et donc, la sous-traitance, c'est une façon d'organiser...
Ah oui, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices journaliers qui sont énormes et des bénéfices annuels énormes aussi. Ça, c'est clair.
Alors, moi, j'ai une question parce que les hôtels étaient... Enfin, les femmes de chambre étaient en grève à plusieurs reprises sur les 10 dernières années.
Oui.
Et là, tout à coup, il y a une victoire. Donc, qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur de cette victoire? Est-ce que les patrons se sont sentis menacés?
Alors, attention, c'est pas tous les hôtels.
Pas tous les hôtels.
C'est le deuxième groupe.
Alors, il y a d'autres conflits qui sont également en cours. Bien entendu, il y a le fait que les personnels ont osé se syndiquer. Et se syndiquer à la CGT, et bon, ils étaient déjà syndiqués en partie à la CNT. Mais là, ils ont osé se syndiquer et ils ont osé en plus participer aux élections professionnelles dans le cadre du donneur d'ordre. Donc effectivement, il y a une évolution de la législation qui permet ça.
D'accord, effectivement. Oui. Et donc, pour pouvoir gagner devant le patron, il faut aller devant un juge. Enfin, je présente.
Il y a la menace.
Et c'est grâce au droit européen, alors.
Il y a autre chose au niveau du droit européen, c'est que les directives européennes sur la question des discriminations ont été transposées récemment, d'ailleurs en mai 2008, dans la législation française, et qu'à partir de là, un juge peut considérer qu'il y a une discrimination indirecte, soit à l'égard des femmes, soit à l'égard des personnes immigrées. Voilà.
Oui, d'accord. Alors bon, ça demanderait développement, mais je ne sais pas si on a le temps.
Non, je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il faut conclure, effectivement, parce que là, l'heure est passée. Merci en tout cas, Odile, pour être parmi nous ce soir.
Je voulais juste faire donc, la pub de cette brochure qui s'appelle 10 ans de conflit dans l'hôtellerie parisienne, qui est éditée par le réseau Stop Précarité, qui date de juin 2013.
Il faut aller sur leur site,
stopprécarité.fr pour essayer de se le procurer.
Voilà. Très bien. Alors, une petite annonce aussi avant de terminer cette émission, quand même. N'oubliez pas que le mardi 10 septembre à 14h, la grande grève contre les retraites, enfin contre la réforme des retraites qui nous ponde bientôt. Ça sera donc à 14h à République. Allez-y tous parce que c'est quand même important. On ne tient pas à terminer notre professionnalisation vers 75 ans ou 70 ou 65.
Professionnalisation.
Hein. Professionnalisation, voilà. Voilà, cette émission se termine. Je vous remercie messieurs dames de l'avoir écouté, suivi. Merci messieurs dames de l'avoir fait avec moi. Je vous dis à tous dans 15 jours. Je vous embrasse les filles et poignez-moi garçon. Ciao.
Bonsoir.